Eh bien, bonjour aux auditeurs de Radio Libertaire. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire. Et on me fait des signes. Voilà, donc c'est l'émission Chronique Hebdo qui va commencer dans quelques instants. Alors, nous avions prévu d'avoir un invité, mais peut-être que le canard est en train de barboter, peut-être dans les différents accidents diluviens qui se sont produits. Peut-être que c'est ce qui l'empêche de venir au studio. En tous les cas, on va quand même commencer l'émission sans lui, mais en espérant qu'il va pas tarder.
Josie, alors, rappelez l'invité.
L'invité, c'était Jean-Luc Porquet.
C'est Jean-Luc Porquet.
Je voulais lire juste un petit truc qu'il écrivait. C'est « Trop nombreux sont ceux qui disent la révolution impossible, impensable et au fond pas souhaitable, pour que je n'ai pas envie de prêter l'oreille à qui est resté fidèle, comme lui, Jacques Ellul, à cette haute aspiration. La radicalité est-elle forcément un mal, une erreur, un danger ? Faut-il fuir l'idéal coup de corps ? N'est-ce pas notre monde, sûr de pouvoir poursuivre indéfiniment sa course, qui baignerait plutôt dans l'utopie ? Voilà, je trouvais que ce discours était...
Oui, c'est tout à fait en phase avec la philosophie anarchiste pour laquelle, effectivement, il n'y a pas de société anarchiste clé en main, mais il y a toujours un mouvement dans les sociétés, et c'est ça l'idéal, l'anarchiste. Il y a un mouvement qui, en effet, grâce à la radicalité, grâce à la révolte, grâce à la révolution, à la non-acceptation de ce qui est, de ce qui existe, et de ce qui est bien souvent à la fois injuste et même dangereux, ce mouvement, cette action permanente vers un idéal anarchiste est quelque chose qui, en effet, rejoint tout à fait ce que nous pensons. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire demain on rasera gratis ou demain on va faire la révolution sociale. Hein. Il s'agit de faire un travail en profondeur de pédagogie de façon à faire en sorte que le maximum d'individus puissent prendre conscience alors que, comme on va le dire aujourd'hui, ils sont souvent... Ils ont les yeux et les oreilles oblitérés, bouchés par la propagande et par les faux discours, les interprétations et le jeu sur les mots.
Oui, alors, pour les auditeurs, donc, on vous le rappelle, l'émission Chronique Hebdo, donc commentaire anarchiste de l'actualité, vous le savez, si vous êtes, comme on dit, des fidèles et infidèles auditeurs de Radio Libertaire. Alors ce jour, nous avons invité hein, Jean-Luc Porquet, mais comme Josie, tu l'as dit, par rapport aux intempéries, alors rappelez simplement, hein, Jean-Luc Porquet, on reviendra peut-être dans sa chronique habituelle qui s'appelle Plouf, cette circonstance peut-être avec les inondations. Oui. Alors j'espère que Jean-Luc Porquet ne fera pas Plouf hein, en ce qui concerne cette émission, mais on verra bien. Alors on voulait évoquer, alors avec lui évidemment on serait revenu bien sûr sur le canard enchaîné et puis un petit peu aussi sur l'itinéraire de Jean-Luc Porquet, mais surtout il était là pour nous présenter un ouvrage, hein. C'est une réédition parce que cet ouvrage avait été publié en 2003 au Cherche Midi. C'est sur cet ouvrage, sur Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu. Alors presque tout prévu, donc il y a des choses, on verra peut-être ce matin, et donc qui a été réédité récemment, hein, cet ouvrage. Alors Jacques Ellul, là aussi, rapidement, donc c'était un prof d'histoire, de droit, sociologue français, mais aussi quand même nous intriguer un peu, on le développera peut-être, c'est avec Jean-Luc Porquet, on évoque aussi sa relation, forte, en tout cas sa conversion, donc au protestantisme, là aussi ses liens, aussi l'influence, puisque il a été un fervent lecteur de Karl Marx, hein, marxiste, qu'il a enseigné, mais aussi, et qu'il trouvait la pensée marxiste. Il exprimait ce point de vue comme une pensée fossilisée. Hein, alors, ce qui fait dire qu'il n'aurait pas été apparenté au marxisme, mais au marxien, ou marxien.
Ben, je crois qu'il a fait un bouquin sur Marx, mais effectivement, ouais. comme tu dis, il a considéré cette pensée comme fossilisée.
Exactement,
oui. Et je crois d'ailleurs, on pourra peut-être en parler avec Porquet, mais qu'il n'avait sûrement pas lu un certain nombre de textes, ou il n'avait pas analysé un certain nombre de textes de Marx, dans lesquels on aperçoit l'absence totale de morale, l'absence totale de justice au sens proudhonien, c'est-à-dire le mépris des individus et la fin justifiant les moyens. Dans ce texte dans lequel on dit, on critique la technique, le système technique, eh bien, il est fondé aussi sur cette morale, la fin justifie les moyens, c'est-à-dire qu'au fond, on est prêt à faire n'importe quoi, à produire n'importe quoi, à développer n'importe quelle technique, sans aucune considération sur les conséquences, du moment qu'on veut faire du fric. Hein. Et donc, s'il avait lu, par exemple, la lettre de Marx à son ami Engels en 1871 en disant « J'espère bien que Bismarck écrasera les ouvriers parisiens parce que ce sera la preuve que notre philosophie est supérieure à celle de Pierre-Joseph Proudhon », il est certain qu'il n'aurait pas eu d'illusion sur ce que c'est que Marx.
Alors rapidement, donc, si cet ouvrage, nous développons tout à l'heure, mais ce thème-là, évidemment, on ne vous l'a peut-être pas précisé, mais c'est l'écologie. Évidemment, ce n'est pas l'écologie à la brique, à la sauce brique, enfin, vous vous en doutez bien, hein, la finance, ils savent pas ce que c'est, évidemment, l'écologie, comme on l'a dit souvent, incompatible avec le capitalisme. Alors, pour ce qui est de Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, eh bien, ça remonte à quand même pas mal de temps, 40, 50 ans, et en tout cas, les OGM, voilà ce qu'on lui attribue, le réchauffement climatique, il fallait le voir, il n'y avait pas que lui, hein, puisque je voulais en parler ce matin, évoquer, évidemment, René Dumont, les déchets nucléaires, les centrales nucléaires, les pesticides, hein, vous savez, c'est d'actualité, les pesticides, on en bouffe tous, en particulier la France, c'est le pays où il y a quasiment, avec les États-Unis, puisque c'est le modèle, l'agriculture, elle a rempli bourré de pesticides, alors c'est pas grave, puisque après...
À propos de pesticides et agriculture, je sais pas si tu as vu, dans l'actualité, il a été demandé l'interdiction, alors est-ce que c'est un ministre... ou bien est-ce que c'est une autorité de contrôle des pesticides qui a demandé l'interdiction d'un je crois que ça s'appelle, je sais pas si c'est cliver ou civer, c'est pas le gaucho, mais c'est un truc qui tue les abeilles.
Ah oui, oui.
Et donc, apparemment...
Il y a le régent.
Oui, il y a le régent, mais il y a encore autre chose.
Il y a le gaucho, et il y en a un troisième.
Oui, qui finit par ber ou un truc, ou vert. L'hiver ou un truc comme ça. Et donc on s'est aperçu en effet qu'il y a eu des études précises qui ont démontré qu'il était responsable lui aussi de la destruction de notre grande déesse qui est l'abeille, puisque
oui,
c'est elle qui contribue, avec quelques autres insectes, mais qui contribue finalement à la pollinisation et au fait que nous pouvons manger, nous pouvons avoir une nature qui produit des fruits.
Alors, petite parenthèse par rapport aux abeilles et la pollinisation, en Chine... Actuellement, aussi, hein, la consommation, parce que je parlais des États-Unis, extrêmement la pollution de la Chine, extrêmement gigantesque, hein, par rapport à ce que font la Chine, puisqu'ils ont ils ont toutes les qualités, ils ont le capitalisme et évidemment le maoïsme réunis. En tout cas, ou ce qu'il en reste.
Capitalisme d'État, oui, c'est capitalisme, vrai. C'est le plus fort. Hein.
C'est exactement ça. Et alors, pour ce qui est des abeilles, comme les abeilles n'existent plus, eh bien, ce sont les Chinois eux-mêmes qui grimpent dans les arbres. Mais c'est pas une blague. Pour aller polliniser les fleurs, non, ce n'est pas une blague. Il y a énormément de lieux où des gens sont chargés de la pollinisation. Voilà, alors on aurait pu évoquer évidemment ces transformations de la modernité tardive, hein, peut-être justement avec Jean-Luc Porquet. Et puis bah, les listes sont longues, hein, évidemment, relais.
Attends, tu parles de la Chine. Tu as lu l'article dans Le Monde sur les choux au formol rejoignent. La longue liste des scandales sanitaires en Chine.
Mmh,
Tu te rends compte ?
Bien sûr.
Ils vendent des, pour les conserver, ils mettent du formol dessus et puis les gens bouffent de.
Et les états, pour les États-Unis, c'est le poulet à l'eau de javel. Quasiment, pratiquement toute la volaille, et non seulement ça, énormément de sous-produits animaux, hein, pour les États-Unis. Donc, c'est un moyen pour eux, puisque de supprimer les microbes, enfin, apparemment. Donc, ils trempent tous ces viandes et tout ça dans l'eau de javel. Alors, ça, c'est un des éléments, puisque ça aurait pu montrer, on l'abordera peut-être, hein, montrer justement par rapport à certaines déclarations de Jacques Ellul. Dans des entretiens, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir certains entretiens qui sont encore petites vidéos sur Internet, où c'est assez comique, puisque la première vidéo, une des premières vidéos, on est en train de filmer, d'un seul coup, paf, les lumières, les lampes explosent. Alors donc, il y a un blackout dans le studio.
La vengeance de la technique.
La technique s'est vengée, on le sait bien. Et par rapport à ça, quelques questionnements simples de Jacques Ellul pour montrer l'absurdité, évidemment, de nos sociétés sur les greffes, entre autres. Là aussi, il explique ça. Je vois ça, par exemple, la question. Il lui disait un chirurgien, un grand chirurgien, enfin, c'est toujours un grand chirurgien, qui lui disait, donc, il faut faire des greffes, mais il faut, la question, c'est comment, quel organe on va greffer? Et alors, c'était ça la question de Jacques Ellul, mais il dit, quel organe vous allez greffer? Parce que faut des organes sains, faut des organes plutôt jeunes, et où vous les trouvez? Et le gars, il lui répond, bah, les accidents de la route. Et donc, c'était pour montrer que, bah, plus il y aura d'accidents de la route, et plus il y aura d'organes sains qu'on pourra prélever pour, après, réaliser des greffes. Alors, là aussi, c'était montrer un peu les inconséquences, les contradictions, l'aspect grotesque du système. Et puis, il disait simplement, bah, l'homme, dans les sociétés modernes, il est libre, totalement libre. Mais on se pose la question quand même, au moment du mois de juillet, si on s'en tient par exemple à l'Hexagone, eh bien, il y a des millions de gens qui vont préparer leurs vacances, qui vont préparer leurs voitures. Ils vont aller à peu près dans les mêmes directions et tout le monde se dira, bah moi, je suis libre, hein, de faire exactement la même chose que mon voisin. Alors il pose la question, c'est étrange que tous ces gens qui se disent libres, par millions, font exactement la même chose. Ça devrait quand même leur poser une question, de dire, alors est-ce que c'est le singe, comme on dit, est-ce que c'est le caméléon, est-ce que c'est le perroquet par rapport à ça? C'est cette question-là pour dire, eh bien, il y a un formatage en l'homme qui se dit libre, ben il a été complètement conditionné, il a été complètement manipulé, il a été complètement formaté. Après, il se dit comme le petit oiseau, hein, tu sais, le serin,
ça, c'est
qui vit dans sa
grégaire.
Cage. Voilà.
C'est l'instinct grégaire. Et effectivement.
Et l'autre élément, alors Jacques, je voulais être beaucoup plus grave, et peut-être ça rejoint un petit peu ce que l'on fait quelquefois par rapport à une rubrique, hein, puisque c'est quand même la question fondamentale dans nos sociétés, la société du travail, où encore une fois, on a des lunettes, peut-être comme on le disait dernièrement, capitaliste, et on le voit plus. Et là, il exprimait justement dans le procès d'Auschwitz par rapport à un criminel, évidemment, plus qu'un criminel de guerre, mais qui se considérait pas comme un criminel de guerre. On lui disait, mais l'abomination par rapport à Auschwitz, par rapport à la faire disparaître, c'était sa fonction, hein, faire disparaître les cadavres. Alors, il devait brûler énormément de cadavres, mais on disait, mais avant, mais les gens, ils mouraient comment, dans quelles conditions, épouvantables et tout ça. Et il répond, mais c'est pas mon problème. Moi, j'étais affecté à Auschwitz et je devais faire bien mon travail. Et mon travail, c'était quoi? C'était de faire disparaître les corps à Auschwitz. Et par ça, Jacques Ellul voulait dire que la morale avait totalement disparu et qu'il était complètement impliqué dans ce qu'on lui demandait, dans ce qu'on lui avait demandé de réaliser. De la même manière, on pourrait dire, des exploits militaires où les gens sont complètement enfermés.
Par et donc, principe, c'est la soumission à l'obligation de servir et l'obligation de la discipline.
Et toute réflexion, toute morale, toute réflexion, toute analyse par rapport à ce mec des camps, eh bien, était complètement banni. Il n'avait plus de capacité, même lui trouvait, c'est ça aussi, la question saugrenue qu'on lui posait par rapport à ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que pour lui, le crime n'existait pas.
C'était évident, puisque c'était un chef qui lui avait dit de le faire. Mmh. Mais c'est valable pour les scientifiques aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire quand on leur dit, mais vous avez fait des découvertes qui sont dangereuses pour la société, ou vous êtes faites des recherches qui ne sont pas justifiées, qui sont inutiles, ils répondent, ah mais c'est pas nous qui décidons, c'est les politiques. C'est
exactement.
Pas nous qui décidons, c'est les politiques.
Et là, alors, donc, la liste pourrait être longue, hein, par rapport à des études qui sont faites, comme on sait bien, par la science, hein, exactement ce que tu dis, des scientifiques qui disent, dernièrement, Madame Lauvergeon, les déclarations de Madame Lauvergeon me demandent de faire du nucléaire, je fais du nucléaire, mais si demain, on me demandait de faire de l'éolien, comme on dit, ou du solaire, j'en ferais. Hein? Alors elle nous répète après, c'est en tant que citoyen, en tant que démocratie, les deux mots qui ne veulent rien dire, comme le mot croissance qu'on aurait pu évoquer ou qu'on évoquera, qui ne veulent rien dire. Et pour Madame Lauvergeon, la conscience tranquille, à part simplement quand même, il faut dire qu'elle avait quelques petits problèmes d'insomnie. Elle nous l'a dit au moment de Fukushima, hein, parce qu'on savait pas où ça allait s'arrêter.
Toi, tu dis souvent le citoyen, finalement c'est rien, c'est un citoyen, mais je pense qu'en effet c'est un petit soldats, et que par conséquent cette notion qu'on a l'air de glorifier, à savoir quelqu'un qui prend en charge et qui a conscience de faire partie d'une société dans laquelle il a son rôle à jouer et dans laquelle il doit réfléchir à son comportement et à ce qu'il doit à la fois penser et faire, eh bien c'est simplement d'obéir à un politicien, à un mec pour qui il a voté, d'obéir sans aucun discernement, c'est-à-dire au fond c'est une façon de renoncer à sa propre personnalité, c'est une façon de dire moi j'ai chargé un député ou un maire ou bien un scientifique de s'occuper de cette affaire, je m'en lave les mains.
Oui, alors Jacques, on verra peut-être ce matin, alors justement puisque tu dis ça, mais au-delà, la tête complètement farcie de juridisme, hein, de ces lois, règlements, et en particulier ce personnage qui s'appelle Didier, et ça il faut pas l'inventer, comme je t'ai dit ce matin, Bocon il s'appelle, avocat général, vous le savez,
à la cour de cassation,
hein, les grands casseurs, les vrais casseurs de la cour de cassation, et il est tellement complètement infecté, on pourrait dire, infecté par le juridisme et par ce qu'il a appris, ce qu'on lui a foutu dans le crâne ou dans laquelle il s'est plongé, qu'il était incapable de voir, justement, à propos de l'Erika, hein, vous savez, 400 kilomètres de côte, là aussi pour les côtes bretonnes, mais aussi 200 000 quasiment les oiseaux, là en tout cas mazoutés, vous le savez, du temps de l'Erika, en 1999, ça remonte assez loin, la justice est lente, hein, comme on dit, la justice est sereine. Alors là, il y a une histoire de procès de 100 millions d'euros que l'État et la compagnie Total devaient peut-être verser, je dis peut-être parce que c'est annulé, ou ça sera en partie annulé, après le procès de la cour d'appel. Et puis là, après, on fait appel... Ça passe en cour, la cour de cassation, comme je dis, la cour des vrais casseurs, des grands casseurs. Et monsieur Didier Bocon, hein, Gibault, pour dire son nom, eh bien, lui, il trouve que, de toute façon, la juridiction, en tout cas, c'est ça l'histoire, c'est que ça s'est passé dans des eaux internationales, et les eaux internationales ne sont pas concernées, c'est-à-dire qu'on peut balancer tout ce qu'on veut dans les eaux internationales, et donc la responsabilité, eh bien, le juridisme, en tout cas, la réglementation pour les eaux international, eh bien, il n'y en a pas. Alors, c'est bien pratique. Voilà, c'est bien pratique. Et ça, ils essaieraient d'argumenter là-dessus pour casser le procès et donc faire que l'État, puisque Mme Eva Joly s'est relevée un petit peu, elle a relevé la tête en nous disant que la concussion, en tout cas la relation, la complicité, la complicité entre l'État et Total, elle nous dit, elle l'a remarqué, que c'était pour eux, justement, cette complicité entre l'État et Total par rapport à la décision de l'avocat général. Alors, je sais pas si tu as vu juste ça, je termine. Ils nous disent, alors là, c'est Le Monde, donc vous savez, Le Monde, le quotidien, comme on dit, Vespéral des marchés, la Pravda du capitalisme, aussi imbibé de juridisme. Alors, on trouve étonnant que cet avocat général ait pris cette décision. Pourquoi ? Parce qu'il a été membre des cabinets des deux gardes des Sceaux socialistes, Elisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu. Et alors, donc, il se retrouve à la Cour de cassation. Alors, il ne serait soumis à aucune pression hiérarchique. Il est là pour dire le droit. Alors, on rigole. Enfin, d'écrire des trucs pareils, hein, quand même. Écrire des trucs pareils, qu'il est là pour dire le droit. Alors, évidemment, quel droit ? Alors, quel droit ? Le droit à l'ensemble de la population de fermer sa gueule, le droit du plus fort, le droit du système capitaliste, le droit des gros pollueurs, le droit de Total. Alors, voilà un peu, ce matin, par rapport à ce scandale écologique, hein, comme l'autre avait dit, c'est pas...
C'est dans l'actualité.
C'est totalement d'actualité, hein, puisque c'est en ce moment.
Oui, on en parle.
Et c'est aujourd'hui en particulier,
beaucoup,
je crois.
Mais malheureusement, la décision de la Cour de cassation ne sera prise, je crois, qu'en septembre. C'est-à-dire qu'au fond, pendant toute cette période-là, les victimes de ce tragique accident... seront toujours en train de se demander si elles ne vont pas devoir rembourser les sommes elles ont bénéficié.
Ben oui.
Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais il y a quand même une chose qui me paraît intéressante à analyser, c'est que même si le bateau Erika a coulé dans les eaux internationales, bateau dont le capitaine était maltais, et dont le propriétaire était Monsieur de Margerie de Total.
Monsieur Total, hein. Oui. Enfin, l'affréteur, en tout cas. Hein, je crois que c'est pas lui le propriétaire du bateau, mais c'est l'affréteur. Oui.
Même si... c'est quand même lui qui prenait la responsabilité.
Oui, mais il le dit, je ne suis pas propriétaire du bateau, alors donc, tu sais, la vieille histoire.
Oui, alors, il y a tout de même quelqu'un qui était propriétaire du bateau, et donc, je pense que monsieur de Margerie, quand il a affrété ce bateau, il devait s'entourer de toutes les garanties pour que le pétrole qu'il mettait dedans ne se répande pas dans la mer.
Ouais.
Alors, même si le bateau, en tant que simple bateau, a coulé dans les eaux internationales, qu'est-ce qui s'est passé au moment du naufrage ? Ce qui était dedans et qui appartenait bien à monsieur de Margerie, c'est-à-dire le pétrole, a progressivement atteint les eaux territoriales françaises. Et donc, ce qui me paraît complètement invraisemblable, c'est que le fait que le pétrole entre dans les eaux territoriales françaises ne suffit pas à dire qu'il s'agit bien d'un naufrage qui a eu comme conséquence tragique la pollution de l'ensemble de la côte bretonne à cet endroit-là, et que par conséquent, le propriétaire, non pas du bateau, mais du contenu du bateau, du pétrole, parce que le bateau soit resté coulé dans les eaux internationales n'a aucune importance, ce qui est arrivé, c'est le contenu du bateau qui est arrivé en France. Et c'est donc cette réflexion qui devrait inciter à dire, il n'y a aucune raison de dire que parce qu'un bateau a coulé dans les eaux internationales, les dommages que lui-même ne provoque pas, mais que son contenu provoque, ne peuvent pas être considérés comme quelque chose de condamnable.
Oui, mais le droit,
je pense que M. Baucon devrait écouter notre réflexion.
En plus, et puis ce que ça va pouvoir permettre, parce que plus pervers que lui, tu meurs, enfin, c'est le moment de le dire, c'est que pour les histoires de dégazage, alors porte son nom, où il vide, il nettoie les soutes des transporteurs dans les zones justement internationales, et ça permettrait à nouveau, puisque actuellement par rapport à la législation, ceux qui dégazeraient dans les zones internationales et qui pollueraient une côte seraient sanctionnés, eh bien ça permettrait à nouveau de recommencer et de repartir justement à quelques kilomètres des côtes pour dégazer, puisqu'il ne serait plus, si on applique cet arrêt de la Cour de cassation, eh bien, ça permettrait à nouveau de encourager, de redégazer pour l'ensemble des pétroliers à quelques kilomètres de côte, puisqu'ils ne seraient plus sanctionnés.
Je pense qu'ils doivent le faire déjà.
Alors justement, c'est une observation, il faut voir, ça se serait relativement calmé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sanction, la juridiction prévoit que justement, si on arrive à identifier le bateau qui est à la source de la pollution, il est sanctionné puisque c'est inscrit dans le droit. Alors que là, par rapport, le droit entre guillemets évidemment, mais là, par rapport au naufrage évidemment de l'Erika, ils argumenteraient sur le fait que c'est un type de naufrage et donc pour un naufrage, c'est pas... comme le dégazage, quelque chose qui relève de l'intention, mais quelque chose qui relèverait pas de l'intention, puisque c'est un naufrage et qu'il l'aurait pas forcément souhaité. Et donc, voilà le retournement auquel on pourrait, qui pourrait se passer. Donc, ça, c'est une chose relativement, évidemment, grave. Je pense qu'on pourrait aller foutre quelques galettes de mazout sur les moustaches de Marjorie. Il le mériterait, mais encore une fois, parce que là, ils s'abritent tous, comme vous le savez, derrière le droit. Ils vous disent c'est et là encore une fois, ceux qui ont été votés, on les remercie. Ceux qui ont été votés ont été légitimés ce droit, donc ils pourront se féliciter une fois de plus par rapport à toutes ces décisions qui sont prises à leur encontre. Et comme j'ai vu dernièrement, enfin il y a un maire UMP là-bas d'une côte bretonne ou un mec socialiste, bon, il chiale un peu parce qu'il se dit si on a remboursé tout ce qu'on a fait par rapport à ça. Alors voilà la contradiction majeure, c'est-à-dire que vous êtes par votre action politique, c'est-à-dire le soutien même du système capitaliste, et après vous venez chialer par rapport, c'est ce qu'on aurait évoqué évidemment peut-être avec Jean-Luc Porquet, enfin pour Jacques Ellul qui ne voyait le système capitaliste, et il y a une contradiction, enfin on en aurait peut-être parlé, je ne sais pas, avec la technique, pour lui en disant que c'est plutôt la technique, mais enfin les deux, le système capitaliste et la technique, le lien qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que cette technique, cette science qui développe justement un matériel, des technologies qui sont comme là encore une fois sans se poser la question par rapport à ces transports, vous le savez, des transports par rapport aux pétroliers qui n'avaient pas de double ou triple coque, et aussi le Nigeria armateur qui a aucune législation actuellement. On peut avoir donc la possibilité pour des compagnies pétrolières de faire transporter leur pétrole par des bateaux immatriculés au Nigeria. Il n'y a aucune législation.
Je pense que même celui qui était enregistré à Malte, l'Erika, oui, avait une législation particulièrement souple et qui ne lui imposait le minimum de contraintes. C'est pour ça que de Marjorie l'a choisi. Mais moi, je crois que pour en finir avec ce sujet, il y a deux choses qui me font réfléchir. C'est d'une part le fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'est pas le bateau que nous considérons, c'est pas le propriétaire du bateau que nous considérons, laissons-le dans ses eaux internationales, mais c'est le monsieur qui est propriétaire du pétrole. Quelle que soit la façon dont ce pétrole est arrivé sur les côtes de France, eh bien, la responsabilité incombe au propriétaire du pétrole. Ouais. C'est donc effectivement. Et le deuxième point, c'est que tu n'entends pas un mot en ce moment où tous les oseaux qui se battent pour avoir un cabinet ministériel...
Il n'y en a pas
un seul qui évoquera ce sujet qui me paraît un sujet non seulement... très important en tant que tel, mais qui illustre bien cette totale indifférence à la société dans laquelle nous allons vivre, et nous vivons déjà malheureusement depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une société de la pollution, une société de la malbouffe, une société du risque nucléaire, une société de la destruction de la nature, et donc il n'y a pas un seul... Monsieur le roi d'Agobert, là, comme je l'appelle, il va nous parler de la croissance. Il est content avec Obama. Tous les deux, ils ont été les grands prêtres de la croissance aux États-Unis. Et c'est tout. Et sans même dire qu'est-ce que ça veut dire. Tout à l'heure, je disais que la croissance, C'est la croissance du fric. Hein.
Oui, bah oui.
Ben, je ne sais pas si on le disait
ça,
au micro, mais quand je te parlais de la Commerzbank, en ce moment, la Commerzbank en Allemagne qui a des difficultés, c'est une des deux ou troisième banques, parce qu'elle a dû spéculer un peu comme beaucoup en Grèce ou ailleurs, eh bien, elle va liquider plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de salariés. Pour... a dit son directeur général, qui vient de s'augmenter lui aussi, je crois que c'est de 70%.
Hein, bah oui,
le directeur de la Commerzbank s'augmente de 70%. Il liquide 1000 ou 2000 salariés. Et son motif, pourquoi me débarrasser de tous ces salariés, c'est pour retrouver la croissance.
Oui, c'est ça.
C'est pour retrouver
c'est ce qu'on
la
disait,
croissance.
Les chefs-d'œuvre.
Voilà ce qu'il dit.
C'est ça.
Et aussitôt, la bourse de Francfort et les bourses internationales ont vu l'action de la Commerzbank grimper dans des proportions extraordinaires, faire une croissance formidable, parce que, en effet, on allait liquider 2000 personnes.
Bah oui, Jacques, alors, juste,
c'est ça la croissance.
Tu vois, tu me dis la croissance, c'est ça, mais on l'a déjà dit pour les Shedoc. Là, ils vident du personnel, hein, donc ils suppriment des milliers d'emplois. À nouveau, donc, croissance des bénéfices et augmentation du nombre d'actions. Mais la même chose, ils implorent la croissance. Pourquoi ? Pour développer l'emploi. Alors, c'est pour ça que ce sont des véritables shedoc. On rigole de ça, mais c'est tragique.
C'est tragique.
Crétinisme est tragique, c'est-à-dire on vide, on liquide, on supprime des emplois, croissance des bénéfices, et du même coup, on dit, on implore la croissance pour créer des emplois. Alors Jacques Ellul était là, justement, le préciser, si on ne peut pas le dire ce matin, il avait affirmé, en tout cas, on s'est toujours montré, qu'il n'y avait absolument aucun lien, c'était bien le contraire, entre la croissance et l'emploi. Puisque là, on le voit, l'évolution même de cette croissance, la croissance ne crée absolument aucun emploi. Et on ne peut pas forcément se réjouir de la création des emplois, puisque dans cette émission, on le dénonce assez souvent, ce sont des emplois salariés, ce sont des emplois... Quels emplois ? Là, encore une fois, hein, revisiter ce que l'on disait sur cette question du travail ou cette question de l'emploi, l'emploi à perdre sa vie, hein, l'emploi qui n'est pas choisi, l'emploi sans aucune réflexion. Et celui-là, comme on dit maintenant où on en est, par rapport à des plus jeunes, hein, que c'est simplement, ils ne parlent plus en termes d'emploi, mais en termes de CDI. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai obtenu un CDI, c'est la nouveauté, c'est des sigles, hein, c'est formidable, un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire quoi ? Qu'ils vont bosser jusqu'au cimetière à durée indéterminée, qu'ils n'auront pas de retraite. Il faut se réjouir. Et là, encore une fois, on était exactement tout à l'heure dans le formatage, hein, le matraquage, la formation des plus jeunes, la formation des enfants, hein, par rapport à ça. Et je voyais ce matin, alors juste ça, je termine là-dessus, dans Le Monde, le supplément économie entreprise, les grandes écoles. Alors je dis souvent, et grandes écoles pour former des grands cons. Et puis avec la parité, eh ben, on dira peut-être former des grandes connes, parce que toutes ces grandes écoles, elles n'ont aucune, absolument aucune réflexion sur la société dans laquelle vous êtes et ce qu'elle peut faire. Et il suffit de prendre justement tous ces personnages, que ce soit l'École nationale d'administration ou une symbolique comme Madame Lauvergeon, l'écouter un petit peu pour se rendre compte le nombre de conneries qu'elle peut dire. Et elle en a, elle comme d'autres, la responsabilité justement par rapport à cette énergie nucléaire mortifère, les responsabilités, c'est-à-dire cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, de chacun d'entre nous, par rapport à ce type de personnage. Eh bien, c'est bien ça. Nous sommes dans un système verrouillé, nous sommes dans un système formaté où tous ces personnages, eh bien, nous dépendons de ces personnages et le système électoral et la votation formatée légitime, encore une fois, ce système de mort.
Oui, alors moi, je peux intervenir ?
Vas-y, ouais. Tu voulais dire quoi ?
Oui, je voulais dire que, justement, Ellul, par rapport au salariat, ça aurait été bien si Jean-Luc Porquet avait été là, parce qu'on lui aurait peut-être posé un peu des questions. Lui, il parle pas de salariat, il parle de prolétariat. Donc, il parle de faire disparaître le prolétariat. Alors, je sais pas si dans sa pensée, il y avait une différence
Sur le plan international, si on parle du prolétariat, des prolétaires, on reprend les définitions du prolétaire basique, en tout cas, mais on peut pas dire pour les sociétés modernes, c'est ce qu'on nous fait croire. Alors le prolétariat, qui peut être rentré justement dedans? Est-ce que prolétaire, c'est par rapport à ce que l'on ne pense plus et la manière dont on peut réagir et la manière dont on devient un esclave de ce système aussi par rapport à des périodes de l'histoire où évidemment ces notions et ce terme n'est pas exactement, puisqu'on parlait tout à l'heure de Marx, comment Marx le définissait, hein, voilà, Jacques, ou comment Proudhon le définissait, et comment Proudhon, pour en parler maintenant.
Oui, Proudhon trouvait que effectivement c'était l'objectif, c'était de faire disparaître cette appellation de prolétariat, c'est-à-dire que bien que la bataille sociale, la bataille pour la justice sociale avait comme objectif numéro un de faire en effet disparaître cette espèce de catégorie inférieure qu'on appelle le prolétaire, dans la mesure où le principe mutualiste, le principe fédératif, le principe du contrat met les individus à égalité les uns face aux autres, et que en effet le salariat est comme la propriété, surtout quand elle n'est pas seulement limitée à sa façon de vivre, à sa propriété privée, le salariat est un vol. Le salariat, la confiscation de la richesse produite par le salarié est un vol. Et par conséquent, effectivement, à partir du moment où on considère que le système économique et social est fondé sur l'égalité et l'équilibre des intervenants, qu'on ne dit pas il y a un chef, il y a un capitaliste qui, parce qu'il a investi et qu'il a un capital, peut se permettre de dire que ce capital en tant que tel a produit la richesse, alors que si on le met tout seul dans son coin, ce capital ne produira rigoureusement rien. Et c'est donc bien le travail des individus qui provoque cette richesse. Alors c'est vrai que dans l'idée de Proudhon, la disparition du prolétariat est un idéal qui rejoint complètement l'ensemble des visions de l'anarchie que le père de l'anarchie avait. Quant à Marx, lui, effectivement, et ses descendants se sont lancés dans une autre conception du prolétariat. Ils ont considéré que cette classe des plus pauvres, des plus démunis, allait pouvoir prendre le pouvoir d'État, et à ce titre-là, ils ont appelé ça la dictature du prolétariat. Et on a vu ce que ça a donné en URSS, puisqu'au fond, à partir du moment où on dit « Eh bien, vous êtes la classe ouvrière, vous êtes les dictateurs, mais il faut quand même des guides », Et ce guide, c'est le Parti communiste.
Ouais, des fureurs, oui, aussi.
On a vu comment le prolétariat, soi-disant dictateur en URSS, est tombé dans la misère, non seulement économique, la plus grande, progressivement, dans la terreur policière. Et aujourd'hui, il est revenu aux illusions religieuses.
C'est ça, complètement. Hein, donc,
voilà ce que.
Ils les avaient pas quittés, on peut le dire, hein. Le communisme était une religion, évidemment.
Communiste autoritaire.
Communisme autoritaire, exactement. Chronique hebdo. Josie. Ton micro.
Ah oui, pardon. Alors, je vais recommencer. Oui. C'était pour parler de la mer, puisqu'on parlait du pétrole, de l'Erika et de la pollution en mer. Je voulais rappeler aussi qu'en 69, les déchets nucléaires étaient directement jetés en pleine mer. Voilà, donc un de ces jours, tous ces déchets risquent bien aussi de ressortir, hein, au niveau des océans.
Mais est-ce que tu crois que ton micro est bien branché? Parce qu'on ne t'entend pas, hein, ici.
Là non plus? Ah bon?
Autrement dit, est-ce que tu as mis assez de puissance?
Bah oui, normalement, oui. Moi, en tous les cas, dans mes oreilles, je m'entends.
Là, ça va, voilà. Là, oui, pour les auditeurs, je crois, non, c'est rétabli. Oui.
Bon, voilà. Et pour dire que dans le livre de Jean-Luc Porquet, donc, il fait une bonne description de l'état actuel des déchets nucléaires, de ce qu'on en fait, de combien de tonnes il y en a, combien ça représente à se débarrasser et l'impossibilité justement d'imaginer qu'on puisse trouver des solutions. Il faut vraiment être fou pour continuer dans cette voie-là. Et alors, je voulais reparler de Ellul parce que on n'a pas, à mon avis, encore évoqué sa particularité aussi de dénoncer l'écologie, mais aussi de dénoncer la technique comme étant un système qui, quelque part, s'autoproduit. Parce que la technique est toujours motivée à se perfectionner, toujours à aller de l'avant, que la recherche, elle est toujours appliquée, parce qu'on ne recherche pas les choses comme ça. Systématiquement, si on a un petit truc, on l'essaye. Voilà, donc c'était pour rappeler ce qu'il disait par rapport à la technique. Et sa particularité à lui, donc c'était ça, c'était de dire que la technique engendre la technique et que l'individu par rapport à cette technique, jamais, même si on essaye de dire qu'il pourrait s'informer, c'est vraiment une foutaise, on se fout de la gueule du monde, parce que déjà les problèmes sont très très complexes, il y en a plein. Si on veut comprendre le nucléaire, si on veut comprendre les manipulations génétiques, si on veut comprendre tous les problèmes qui sont révélés de la vache folle, des grippes aviaires et tout ça. L'individu, en bossant, a très peu de temps déjà à consacrer à l'étude. Donc, lui faire croire aux citoyens, entre guillemets, qui pourraient avoir une compréhension des problèmes, c'est se foutre de la gueule du monde. Et ça, c'est Ellul qui le disait déjà à son époque. Et voilà, quoi, c'est ce que je voulais rajouter un petit peu. Alors, je sais pas si on fait...
Oui, on reviendra tout à l'heure sur, en effet, les conceptions de Jacques Ellul sur cette idée que la technique est un système, parce que je pense que ça mérite quand même des explications et éventuellement des compléments dans la discussion, parce qu'effectivement, moi je pense, quand il dit par exemple que c'est pas la peine de se battre contre l'État, alors là il est pas du tout dans la logique anarchiste, disant c'est pas la peine de se battre contre l'État, parce que de toute façon l'État n'est simplement
qu'à
faire valoir.
Il se positionne contre la conquête de l'État, enfin du moins dans ce que j'ai lu. Voilà, vous écoutez Chronique Hebdo. Alors, en numéro de téléphone 01 43 71 89 40, si vous voulez nous appeler pendant qu'on va écouter donc les oiseaux de passage, l'oiseau,
qui sont mazoutés, les 200 000 volatiles de l'Erika.
Fille heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé, 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée, et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoux en pleurs, c'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir.
Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que onc, elle n'eut de souhait, impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonc, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu.
Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de l'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains,
loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un vicèbre sans fièvre, un coucou régulier et garantie 10 ans.
Oh, les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent, planent et passent. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol?
Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages, ils vont tout leur désir, le vœu par-dessus mont, et bois et mers et vents, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons.
Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous, mieux.
Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux et défiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux et défiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Thank you. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches bien dissimulées, samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute, il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville et le chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'apprendra le code civique et la probité. Si tu les mets en pratique, tu seras exploité. Par contre, si tu t'en balances, tu seras respecté. Et selon toute évidence, tu seras député. Pour te faire faire connaissance de la liberté, tu seras dès ta naissance finement ligoté. Tu pourras souiller ton linge afin de protester. C'est tout de même toi, petit ange, qui sera embêté. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père, et c'est ce qu'on m'a dit. Ça revient de façon régulière, tout comme les radis. Voilà, mon cher petit homme, tout.
Voilà, chronique.